VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 18h à Bangui, bienvenue à notre journal. Au Cameroun, les ministres des Finances de 15 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre utilisant le franc CFA se réunissent demain à Yaoundé avec leur homologue français Michel Sapin pour faire le point de la situation économique. La question de l'avenir du franc CFA pourrait revenir sur le tapis. Ce débat récurrent depuis la création du franc CFA il y a 70 ans a été relancé en 2015 par le président tchadien Idriss Déby Itno qui avait appelé les pays membres à se doter de leur propre monnaie. Pour en savoir davantage sur ce dossier, John Lyndon a joint à Yaoundé l'économiste camerounais Dieudonné Essomba qui revient sur le projet d'une monnaie commune africaine.
Le projet d'une monnaie commune africaine date de 1963, il n'a jamais évolué. Aujourd'hui, il revient, mais on ne voit pas une démarche opérationnelle. Ensuite, on a vu avec l'exemple de l'euro qu'une monnaie commune ne s'applique dans un système fédéral. Or, l'Afrique est encore très loin de la fédération. Est-ce qu'on va attendre tout ce temps-là pour résoudre le problème monétaire africain? Non. C'est pour ça que j'ai proposé la binarisation du CFA.
Qu'est-ce que vous entendez par binarisation du CFA?
La binarisation, c'est un peu ce qui se passe aux États-Unis avec la célèbre du rappel Itaka. Itaka a créé une monnaie qui circule à l'intérieur d'Itaka concurremment avec le dollar. Ce que je propose donc, par exemple, dans un pays comme le Cameroun, c'est l'émission d'un pouvoir d'achat qui fonctionne concurremment avec le CFA. C'est un système, par exemple, la Suisse a un système comme celui-là. C'est un système bien construit sur ce modèle-là, est beaucoup plus adapté à notre situation économique actuelle que une monnaie purement souveraine.
L'économiste camerounais Dieudonné Essomba à Yaoundé au Cameroun. Au Burkina Faso, le cadre de concertation des OSC, les organisations de la société civile, hausse le ton. Accusée de blanchiment d'argent, cette plateforme dit être dans le collimateur du nouveau pouvoir pour son rôle dans l'insurrection populaire d'octobre 2014. Les explications de Safiatou Lopez-Zongo, présidente d'honneur des OSC burkinabé.
Nous avons dit au gouvernement de faire la lumière, de donner les noms de ceux-là qui sont impliqués dans ces histoires de deal de parcelles et de blanchiment d'argent. Parce qu'au niveau du cadre de concertation nationale des OSC, on ne se reconnaît pas dans ces histoires. Parce que si vous avez des preuves, pourquoi vous ne sortez pas ces preuves? Je me dis que dans ce gouvernement-là, même s'il y a des gens qui sont impliqués dedans, ils ont des camarades dans ce gouvernement, donc ils ne font pas de communication. C'est jeter le discrédit sur les OSC et puis se mettre de côté. Et c'est ça que nous avons dit que nous ne pouvons plus accepter. On s'est dit non, il faut les casser pour réorganiser des gens qui sont acquis à leur cause. Ils peuvent créer, mais nous disons, où étaient ces gens-là? Il y a un problème. Nous avons risqué nos vies, la vie de nos familles. Des autorités aujourd'hui ne savent même pas comment nous avons mené cette lutte-là. On ne peut pas regarder l'insurrection à la télé et puis venir gérer ce pays-là. Ça au moins c'est clair. Si tu ne tiens pas compte de ce qui a amené le soulèvement populaire, tu as échoué.
Safiatou Lopez-Zongo, présidente d'honneur des OSC au Burkina Faso. Burundi maintenant, un capitaine de l'armée assassiné dans la nuit de jeudi à vendredi à Kamenge, dans le nord de Bujumbura. Le sixième officier abattu depuis le début des violences qui ont suivi la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat très contesté. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Le capitaine Eli Mugabonu Wundi a été tué près de chez lui vers 22h dans le quartier de Mirango, zone de Kamenge au nord de Bujumbura. Selon le porte-parole adjoint de la police, Moïse Ngurunziza confirme que trois hommes sont arrivés à l'endroit où le capitaine était avec deux amis. L'un d'eux a tiré trois balles dans la tête avec un pistolet. Le capitaine est mort sur le champ, tandis que les deux autres grenades que les tueurs ont lancées derrière eux pour couvrir leur fuite n'ont pas fait de dégâts humains. La police indique que les enquêtes ont commencé pour démasquer les criminels sans foi ni loi, mais bon nombre d'enquêtes initiées par la police n'aboutissent pas, selon plusieurs témoignages de la population. Le capitaine Eli Mugabonu Wundi, marié, était radiologue à l'hôpital militaire de Kamenge. Ces trois dernières semaines, trois officiers militaires burundais ont été tués dans des circonstances qui demeurent toujours mystérieuses. Le capitaine docteur devient le sixième militaire tué après le début des violences qui ont accompagné l'élection contestée du président Pierre Nkurunziza en juillet dernier. Plus de 400 personnes sont mortes, tandis que 250 000 Burundais sont réfugiés dans les pays voisins, selon les Nations Unies. Christophe Kurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Toujours concernant le Burundi, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a décidé de suspendre partiellement sa coopération multilatérale avec le pays. L'OIF déplore la dégradation de la situation sécuritaire et l'absence, malgré les efforts de la communauté internationale, d'avancer au Burundi dans l'instauration d'un dialogue politique réellement inclusif. Par contre, l'organisation dirigée par la Canadienne Michaëlle Jean a annoncé la réintégration de la République centrafricaine au sein de ses instances, en saluant le sens des responsabilités dont ont fait preuve les autorités de transition du pays, en organisant avec succès des élections après 3 ans de violences intercommunautaires.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Tchad, une nouvelle rébellion baptisée Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, opposée au régime du président Idriss Déby Itno, vient de voir le jour à Tanoua, dans l'extrême nord du pays, près de la frontière libyenne. Ce mouvement politico-militaire est une dissidence de l'ex-UFDD de Mahamat Nouri. Par ailleurs, les électeurs se rendent aux urnes dimanche 10 avril, date des présidentielles où 13 candidats, y compris le président Déby, briguent la magistrature suprême. Mahamat Brahim Yesko, candidat du MDA, a annoncé récemment son désistement en faveur du président Déby. Yesko est le père de Zohora, l'adolescente de 16 ans, victime d'un viol collectif en février. Il affirme qu'il se battra pour obtenir justice pour sa fille, mais en politique, il dit soutenir le président Déby pour les efforts du chef de l'État en matière de sécurité au Tchad. Les explications de Mahamat Brahim Yesko au micro de notre envoyé spécial, Bagassi Koura.
Moi, avec Déby, nous avons un problème politique. Le problème Zohora, c'est un problème des familles des Tchadiens. Donc, il ne faut pas que les gens mènent des amalgames. Et c'est les responsables de ces problèmes, c'est les individus qui ont fait l'acte. Et la justice les a incarcés, et les a amenés à Porotora. Maintenant, à partir de ces bruits, quand ça prend fin, ils seront jugés. Le jour que ma fille n'est pas jugée, je crois que je serai le premier à aller mourir sur les champs d'honneur. Le problème de Zohora est un problème où jusqu'à aujourd'hui Obama a en main. Le problème de Zohora est aujourd'hui le Parlement européen a déjà en main. Donc elle aura justice. Les Tchadiens doivent patienter. Le jour où ma fille n'a pas eu justice, je crois que je suis le premier à perdre ma belle vie. Mais ça veut dire que je vais mourir pour ma fille. Ce n'est pas Déby qui va m'empêcher pour que j'aie justice. Donc si je pars chez Déby, ce n'est pas pour lui demander justice. Mais je pars chez Déby sur les problèmes de mon pays, le Tchad. Pour les services de sécurité. Ce n'est pas le 12 ou le 13 se réunissent demain pour faire une manifestation qui aura la paix dans ce pays. Ce n'est pas le 12 ou le 13 vont demain faire la marche qui aura la paix. La paix, c'est dans la tranquillité et en conciliation avec Déby, pas en bras tendus.
Mahamat Brahim Yesko, le candidat du MDA qui s'est désisté en faveur du président Idriss Déby Itno au Tchad. Élection à Djibouti. Les Djiboutiens choisissent aujourd'hui leur président parmi 6 candidats. Le chef de l'État sortant, Ismaël Omar Guelleh, est presque certain d'être reconduit. Idriss Fall.
Quelques 187 000 électeurs sont appelés aux urnes dans ce petit pays de la Corne de l'Afrique. Les résultats attendus dans la soirée seront sans surprise. Le président sortant Ismaël Omar Guelleh, dit IOG, est largement favori. Âgé de 68 ans et au pouvoir depuis 1999, M. Guelleh brigue un 4e mandat de 5 ans. Il est opposé à 5 candidats, dont 3 indépendants. L'opposition qui avait réussi à se rassembler pour les législatives de 2013 au sein de l'Union pour le salut national se présente en rang dispersé. L'USN n'a pas pu s'entendre sur une candidature unique. Elle a donc 2 candidats, Mohamed Daoud Chehem et Omar Elmi Kairek. 3 partis de position, dont le MRD de Daher Ahmed Farah, ont décidé de boycotter le scrutin, dénonçant une mascarade électorale.
Aux Comores, ce sera le second tour de la présidentielle dimanche. Les 3 candidats qualifiés pour le scrutin étaient arrivés dans un mouchoir de poche au premier tour le 21 février. L'actuel vice-président Mohamed Ali Soli, dit Mamadou, avait décroché la première place. Madagascar, le Premier ministre Jean Ravelonari va présenter sa démission et celle de son gouvernement après des semaines de polémiques sur un conflit l'opposant au président Eri Rajoelina Mpianine. C'est ce qu'annonce aujourd'hui la présidence malgache. Et pour terminer, élection au Congo-Brazzaville, Washington estime que la réélection du président Sassou Nguesso a été émaillée d'irrégularités. Washington exhorte le gouvernement congolais à corriger ses nombreuses déficiences avant de programmer les élections législatives pour apporter une crédibilité au processus électoral à venir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.